Etur Jesus Christus.
Journée mondiale des malades, elle sera célébrée le 11 février. Ce matin, le Vatican a dévoilé le message du pape à cette occasion. François invite à accueillir et à cultiver l'espérance qui vient du Seigneur au-delà des souffrances humaines. La ville de Goma dans les mains des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La plus grande confusion règne sur place alors que des combats se poursuivent. Nous ferons le point avec notre correspondant dans la ville. 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Les témoins directs de la Shoah sont de moins en moins nombreux. Comment faire alors pour transmettre cette mémoire aux nouvelles générations? C'est ce que nous verrons en Pologne. Alexandre Loukachenko réélu sans surprise à la tête du Bélarus pour un 7e mandat de 5 ans. Le président au pouvoir depuis plus de 30 ans est parvenu à faire taire toute opposition depuis la contestation de 2020.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Accueillir et cultiver l'espérance, c'est l'invitation que le pape François lance dans son message pour la 33e journée mondiale des malades qui sera célébrée le 11 février prochain. Ce texte dont le titre reprend celui de la bulle d'indiction du jubilé, l'espérance ne déçoit pas, invite donc Jean-Benoît Harel à cultiver cette espérance qui vient du Seigneur au-delà des souffrances humaines.
Le Christ lui-même s'est fait homme et a connu nos souffrances, et c'est justement dans les situations de souffrance, qu'elles soient physiques, psychologiques ou spirituelles, que le pape invite à se tourner vers le secours de Dieu. L'espérance naît d'abord d'une rencontre avec le Seigneur et nous fait découvrir le rocher inébranlable auquel nous pouvons nous accrocher pour affronter les tempêtes de la vie, souligne François. Ces tempêtes peuvent être surmontées grâce à la grande espérance qu'est la résurrection du Christ, résurrection qu'il promet à tous les hommes. Et l'espérance ne peut se garder pour soi, mais se partage, assure le pape. Les lieux de soins, hôpitaux, cliniques, dispensaires, font éclore l'espérance et la charité dans le service et le soutien des malades. Dans ces lieux, on se découvre alors être des anges de l'espérance, des messagers de Dieu les uns pour les autres, tous ensemble à travers des lumières comme le sourire d'un soignant ou le visage bienveillant d'un bénévole, a cité François. En cette année jubilaire, l'évêque de Rome encourage les malades, les soignants et les proches à faire résonner ce chant d'espérance au-delà des chambres et des lits des établissements de soins pour stimuler dans la charité l'agir harmonieux de toute la société et apporter la lumière et la charité là où ils sont le plus nécessaires.
Jean-Benoît Harel, en raison du jubilé 2025, la célébration de cette journée mondiale qui devait se tenir dans le sanctuaire de la Vierge de Chapi au Pérou est reportée à l'année prochaine. Les personnes malades, leurs familles et les soignants sont eux attendus à Rome pour le jubilé du monde de la santé les 5 et 6 avril prochains. L'Église aura bientôt une nouvelle sainte. Ce matin, le pape François a approuvé les décrets du dicastère des causes des saints, reconnaissant notamment le miracle attribué à la bienheureuse italienne Vincenza Maria Poloni, fondatrice de l'Institut des Sœurs de la Miséricorde, née à Vérone en 1802 et morte dans cette ville en 1855. Et puis le dicastère a également reconnu deux martyrs, le premier est celui du serviteur de Dieu Pietro da Corpa et de 4 de ses compagnons, tous franciscains, et tués en haine de la foi, c'était en 1597 en Floride. Le second martyr reconnu est celui du frère mariste suisse Licarion May, tué lui aussi en haine de la foi en 1909 à Barcelone, lors de la semaine tragique par des anarchistes. L'actualité internationale dominée par le sort de Goma, la principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo, le mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda, est entré ce matin après 5 jours de combat. La nuit d'hier à aujourd'hui a été déterminante. La plus grande confusion pour le moment règne sur place. Le point sur la situation avec, à Goma, Augustin Moussangue.
Après une nuit très agitée, la ville de Goma s'est réveillée avec l'entrée du M23. La résistance des FARDC n'aura pas tenu. Sur les grandes artères de la ville, on peut voir les militaires du M23 descendre, avec une population d'écuriers qui les observent le long de la route. Les quartiers partageant la frontière avec le Rwanda sont sous feu. Tout l'avant-midi, des échanges en armes lourdes se font entendre. Des détonations des bombes. Dans la partie ouest, les jeunes patriotes du Wazalendo sont visibles dans quelques coins et tirent ça et là des balles. Les commerces sont fermés. La ville est sous tension et paralysée. Jusqu'à présent, aucune communication officielle n'a été faite, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté du M23. Goma, Augustin Moussinguet pour Radio Vatican.
Et dans cette confusion, la prison de la ville a été incendiée, permettant une évasion massive d'une partie des 3000 détenus. Il y aurait des morts également. Sur le plan diplomatique, le président kényan, au nom de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a invité ses homologues congolais et rwandais à venir à Nairobi dans les 48 heures pour trouver une issue à ce conflit, malgré l'échec de la médiation angolaise à la fin de l'année dernière. Le gouvernement congolais assure travailler pour éviter, en tout cas, le carnage et les pertes en vie humaine, c'est ce qu'il a indiqué sur X il y a quelques minutes. Autre source de préoccupation du pape en Afrique, le Soudan, où la guerre civile a provoqué la plus grave crise humanitaire dans le monde, c'est ce qu'il a dit hier lors de l'Angélus. Il a exhorté les populations à la fraternité, à la solidarité, à ne pas se laisser instrumentaliser. Il a invité aussi les belligérants à reprendre les négociations et la communauté internationale à tout faire pour acheminer l'aide humanitaire aux déplacés et aux réfugiés. Des files de plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens font route vers le nord de la bande de Gaza. Israël a levé le blocage d'un point de passage dans le territoire palestinien après avoir trouvé un accord avec le Hamas pour la libération de 6 autres otages. Le long de la côte, les civils avancent donc le plus souvent à pied. Ceux qui peuvent circuler à bord d'un véhicule doivent passer des points de contrôle. Journée de la mémoire, et cette année ce sont les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. À cette occasion, hier, le pape a rappelé lors de l'Angélus que l'horreur de l'extermination de millions de juifs et de personnes d'autres confessions au cours de ces années ne peut être ni oubliée ni niée. Il a appelé à travailler ensemble pour éradiquer le fléau de l'antisémitisme ainsi que toutes les formes de discrimination et de persécution religieuse. 80 ans après la libération des camps, la question qui se pose maintenant, c'est celle de la transmission de cette mémoire au fur et à mesure que les témoins directs disparaissent. C'est le cas notamment en Pologne. Le reportage d'Adrien Sarla.
Comme d'autres rescapés de la Shoah, Monika Goldwasser a pris l'habitude de raconter son histoire face à des classes d'élèves depuis des années.
Quand les nazis ont raflé les juifs sur la place du marché, ma mère m'a remplacée par une poupée qu'elle serrait contre elle, en faisant croire que c'était moi.
Mais le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau, Piotr Tsivinski, s'inquiète déjà de la disparition progressive de ces survivants, dont aucun livre d'histoire ne remplacera jamais le témoignage. Le musée prépare déjà une exposition d'œuvres d'art réalisées par les rescapés, représentant leurs souvenirs d'Auschwitz. De quoi immortaliser le traumatisme des camps.
Sur ces œuvres, on voit très clairement l'impact du processus de déshumanisation. Ces regards qui sont retranscrits sur les dessins, pour moi, c'est quelque chose d'incomparable à quoi que ce soit au monde.
Au cours des visites qu'il anime dans le camp d'Auschwitz, Tomasz Miraldo incorpore systématiquement des témoignages de rescapés qu'il a rencontrés en personne, comme pour préserver leurs souvenirs.
Un survivant m'a dit un jour qu'une fois que tous les témoins directs auraient disparu, ce sera nous, les guides, qui deviendrons les témoins de facto. Et c'est à nous que reviendra la responsabilité de transmettre l'histoire d'Auschwitz.
Une responsabilité qu'il endosse volontiers pour s'assurer que leur histoire échappe à l'oubli. Adrien Sarla, Oświęcim, pour Radio Vatican.
Pas de surprise en Bélarus, le président Alexandre Loukachenko a été réélu hier pour un 7e mandat consécutif lors d'un scrutin présidentiel totalement verrouillé et sans véritable adversaire. Âgé de 70 ans, l'homme fort règne sur le pays d'une main de fer depuis 1994. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Au pouvoir depuis 30 ans, Alexandre Loukachenko a été reconduit à la tête de la Biélorussie pour un nouveau mandat de 5 ans. Selon un sondage officiel opéré à la sortie des urnes, le président biélorusse a recueilli 87,6% des voix. La commission électorale a pour sa part annoncé que 81,5% des 6,9 millions de citoyens appelés aux urnes se sont déplacés dans les isoloirs. L'Union européenne et plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont qualifié cette élection de mise en scène. Depuis la Pologne, où elle vit en exil, la chef de file de l'opposition depuis le scrutin de l'été 2020, Svetlana Tikhanovskaya, a dénoncé une farce électorale, qualifiant Alexandre Loukachenko de criminel et exigeant la libération de tous les prisonniers politiques, dont son mari, qui purge actuellement une peine de prison de 18 ans. L'élection de 2020 avait été marquée par l'étouffement de toute opposition, des arrestations et des condamnations à de lourdes peines de prison pour les manifestants comme pour les opposants. L'occasion pour celui qui règne sans partage depuis 1994 de parler d'une démocratie brutale en Biélorussie lors d'une conférence de presse tenue au terme de cette élection dénuée d'enjeux. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et Alexandre Loukachenko a reçu ce matin les félicitations de son principal allié, Vladimir Poutine, qui parle d'une victoire convaincante qui témoigne du soutien incontestable de la population. Félicitations également du président chinois Xi Jinping. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.